RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean-Luc Roy.
Eh bien bonjour Louis Amar, salut à tous.
Dans un instant, les dernières nouvelles de la F1, des changements de réglementation notamment et des infos concernant les Français. On évoquera Pierre Gasly et Charles Leclerc, les deux promus qui rouleront la saison prochaine chez Red Bull et Ferrari. Et puis à 13h40, Radio Paddock avec notre invité Gérard Neveu, le directeur général du championnat du monde d'endurance. C'est parti pour Motors, bienvenue à tous. Pas mal de nouveautés à venir en 2019 en Formule 1, ce sont essentiellement des changements de réglementation sportif et technique. On va essayer de vous expliquer tout ça clairement. C'est pour ça qu'on a appelé Adrien Tambay. Salut Adrien.
Salut Louis, salut à tous, salut Jean-Luc.
En direct de Val d'Isère encore Adrien ou pas?
Ouais, je suis sur la redescente là.
À tous les sens du terme.
Non.
D'accord. T'as enlevé tes skis.
Tu es très studieux. C'est bien, ça ne nous étonnera pas. En tout cas, merci d'être avec nous, Adrien. Ça fait plaisir de t'entendre à nouveau. Jean-Luc, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Beaucoup de changements qui s'annoncent pour la saison prochaine. Alors, en apparence, c'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler cet après-midi. Ce sont des détails, mais en fait, ça peut changer beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on va essayer de vous dire tout ça très clairement. On commence, Jean-Luc, par le système de pénalité qui a été revu presque.
Oui, alors effectivement, ce système de pénalité, vous le savez, si vous écoutez régulièrement à RMC, si vous nous écoutez pendant les Grands Prix, je ne manque pas souvent de trouver ça effectivement dommage, parce que ça casse la course de pilotes performants. C'est pour les changements d'éléments techniques, hein, on peut même plus parler de moteur, mais des six éléments techniques qui composent le groupe propulseur. Eh bien, c'est vrai que ça donnait lieu effectivement à des scènes un petit peu bizarres, voire cocasses, puisque les pénalités, quand elles s'appliquaient à plusieurs pilotes, on mettait les pilotes dans l'ordre de leur sortie de piste aux essais, ce qui était un petit peu ridicule. Donc on voyait des pilotes se précipiter à la sortie de la voie des stands pour être les premiers à prendre la piste, en sachant qu'ils n'allaient pas rouler. C'était un petit peu grotesque. On s'en est rendu compte en Formule 1. Donc maintenant, on a décidé de procéder différemment. Ça s'applique uniquement aux pilotes qui prennent plus de 15 places de pénalité, puisque tu te souviens, et vous vous souvenez tous, qu'on a limité maintenant, puisqu'on arrivait à 342 places de pénalité, ce qui est un peu ridicule. On a décidé de limiter à 15 places, et donc ces pilotes-là qui sont frappés par ces 15 places de pénalité partiront évidemment du fond de grille, mais dans l'ordre de leur performance aux essais. Ce qui veut dire en clair qu'on va les obliger, les contraindre ou les inciter, comme vous voulez, à effectuer une performance aux essais, ce qui est évidemment une bonne nouvelle.
Ça veut dire deux choses. On réhabilite d'une certaine manière la performance sportive, puisqu'on l'a fait primer sur les problèmes mécaniques qui occasionneraient une pénalité. Ça veut dire une deuxième chose. C'est pour ça, Adrien, que c'est important. Ça veut dire que quand on arrive sur un Grand Prix, même si on sait qu'on change de moteur et qu'on va être pénalisé, on est quand même poussé à réaliser le meilleur temps possible en essai. Et ça, évidemment, ça change, Adrien, la façon d'aborder un week-end.
Alors oui et non. Parce que dans le fond, là, les pénalités restent là. Malheureusement ou heureusement, chacun a son avis. Elles restent là pour ce qui est des 5 places, des 10 places, des 15 places. Ce qu'on fait en fait, juste comme le disait Jean-Luc, c'est qu'on évite de se retrouver avec une situation qu'on a eue cette année pour la première fois assez inédite, où en gros il y a personne qui roule en Q2 et où le spectacle, ben, il est réduit à néant et les gens qui sont venus regarder et qui regardent la télé ou qui écoutent à la radio, et ben n'ont pas de spectacle tout simplement. Donc c'était triste pour la F1 et on trouve une solution. Comme ça, dans le fond, en fait, la règle reste la même. On oblige tout simplement maintenant, en faisant ça, les pilotes à rouler tout simplement dans toutes les séances de qualif.
Et tu as parfaitement raison, Adrien, en disant il faut tenir compte de la réglementation. Moi aussi, je suis contre ces pénalités, mais avec trois moteurs et trois éléments, là aussi on le rappelle, pour l'ensemble de la saison, malheureusement on l'a vu à partir de la moitié de la saison, la première moitié, là ça se gère à peu près, on voit pas trop de pénalités s'appliquer, mais dans la deuxième ça devient grave. Ça l'était un peu moins cette année, il faut être honnête aussi, que ça ne l'avait été l'an dernier, enfin notamment parce qu'on a réduit le volume de pénalités, on l'a dit.
Mais peut-être que c'est une mesure très à la marge, en fait. Peut-être qu'il serait plus intelligent de revoir entièrement le système de pénalités, peut-être de les rendre moins sévères, puisque la plupart du temps, le pilote n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien?
Je pense que plus on avance avec cette réglementation et ces types de moteurs dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé la réglementation au niveau du moteur, donc on va gagner en fiabilité dans toutes les équipes, et je pense que plus on va avancer dans les saisons, et que l'année prochaine, ça sera mieux tout simplement que ça l'était cette année, que ça l'était l'année dernière, tout simplement parce que Honda va trouver des solutions, Renault va trouver des solutions de fiabilité aussi, et cette réglementation de 3 moteurs par an, à partir du moment où tout le monde aura trouvé son point de fiabilité, ça sera viable. C'était un peu difficile lors des premières années de réglementation de ces nouveaux moteurs.
Et Adrien a raison de souligner que du côté de Ferrari ou Mercedes, on n'a pas été trop pénalisé. Voilà, même si ça a pu arriver ponctuellement, mais c'était très rare. C'est effectivement Honda en premier lieu, oui. Hein, et puis Renault en partie, et qui était frappé, ou les pilotes qui utilisaient ces mécaniques-là.
Ce qui prouve d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse en t'entendant dire ça, Jean-Luc, mais si on considère que ce sont Honda et Renault qui ont été lourdement pénalisés, ça veut dire que c'est pas uniquement une histoire de budget finalement, parce que oui, Ferrari et Mercedes ont des budgets supérieurs. Mais Honda et Renault ne sont pas des motoristes pauvres ou sans le sou. Mais écoute, ça veut dire que c'est une affaire de savoir-faire.
Écoute, et ça, je l'ai dit très longtemps, Honda et Renault ne sont pas devenus des mauvais motoristes. C'est impossible pour moi.
Ni des pauvres motoristes.
Non, pas du tout. Alors, en tout cas, le budget de Honda, ça, on en est certain, il est colossal. Il est du niveau de celui de Mercedes et de Ferrari. Tu as bien raison. Renault est peut-être un peu plus limité, mais le problème n'est pas là. D'ailleurs, ils ne s'en plaignent pas. Non, c'est que la technologie utilisée maintenant est tellement complexe, et notamment ces systèmes de récupération d'énergie, la manière dont cette énergie est délivrée par la suite, c'est tellement complexe qu'on est, j'ose dire, loin de la mécanique. Oui, Adrien.
Ça prend du temps, tout simplement, et c'est là-dessus qu'on peut revenir aussi. Louis, tu parlais de savoir-faire. Je pense pas qu'on soit en mal de savoir-faire en France chez Renault et au Japon chez Honda. On est juste un peu en retard. Ferrari et Mercedes ont anticipé ces règlements, sont sur ces moteurs depuis plus longtemps. Faut rappeler que Renault a fini seulement sa deuxième vraie année de retour en Formule 1. Même s'ils ont motorisé Red Bull pendant des années, je pense qu'on avait mieux anticipé tout simplement chez Mercedes et qu'on a trouvé des solutions plus vite que d'autres. Et il faudra du temps, et il a fallu du temps à Renault et à Honda pour arriver à un certain niveau de fiabilité et de performance également.
Donc oui. Du changement, on l'a bien compris, voilà. Dans le système de pénalité, voilà. Ça c'est
et
une première
évolution. Et on va voir des pilotes rouler également en Q2,
voilà. Absolument.
Même s'ils sont pénalisés.
Clairement, voilà ce que ça va changer. Voilà. Alors vous le savez, si vous êtes des habitués de Motors, ou des passionnés de Formule 1, ou les deux, qui
les
sait
deux, on a le droit.
On l'espère, la F1 est un sport qui fait, pas sa révolution, mais qui change très régulièrement, disons tous les 4 ou 5 ans, au gré de changements de réglementation importants. Le prochain grand changement, ça sera en 2021, et Jean-Luc, on commence déjà chez les écuries à simuler les nouveaux règlements de 2021. Alors déjà, comment c'est possible et qu'est-ce que ça change?
Ben écoute, en fait, on travaille en amont, comme Adrien l'évoquait il y a un instant, dès qu'on a quelques éléments. Alors, ce règlement, et c'est un peu le problème actuellement, c'est qu'on n'avance pas vraiment sous la houlette de Ross Brawn. Malheureusement, les écuries et les motoristes ne sont pas capables de se mettre d'accord, notamment en matière de moteur. On a bien compris que les aménagements seront finalement très limités en matière de moteur. On parle peut-être de la suppression de l'un des systèmes de récupération d'énergie électrique, on ne sait pas encore trop lequel, enfin peut-être celui au moment du freinage, ce qui serait pas mal parce que ça redonnerait du pouvoir au pilote. On sait bien qu'aujourd'hui le pilote est tributaire justement de ce système de récupération d'énergie sur le train arrière qui parfois fonctionne ou moins bien. Donc ça pénalise là aussi, comme le disait Adrien également, ceux qui ont moins de développement dans ce domaine, ceux qui ont fait moins d'essais, etc. Donc on travaille déjà sur des simulations et notamment aérodynamiques, et on a décidé du côté de la FIA, et c'est toujours un peu curieux parce qu'on veut réduire les budgets, pour ce qu'on appelle la CFD, donc c'est la conception, la simulation évidemment sur ordinateur, mais là ça prend des proportions plus importantes, on a des budgets illimités maintenant et on n'a plus de limites non plus de nombre d'heures, etc. Donc on a libéralisé cet aspect-là, peut-être pour y voir plus clair, si je peux me permettre, je ne sais pas si Adrien va être d'accord, mais parce que justement comme on avance pour le moment là-dessus, bah peut-être les simulations des équipes, qui sont évidemment très puissantes et que la FIA n'a pas, vont permettre de nourrir le débat et de figer la réglementation.
C'est exactement ça, Jean-Luc, et surtout je pense que ça c'est l'intelligence de Ross Brawn qui a été des deux côtés, qui sait très bien que les écuries ont la force de frappe pour avoir des réponses au niveau de la simulation le plus tôt possible, pour ne pas faire d'erreur sur une nouvelle réglementation. C'est très important pour la Formule 1 de nous procurer du spectacle, et on voudrait pas à nouveau sur un nouveau règlement avoir une erreur et se retrouver avec des voitures qui de nouveau ne peuvent pas se dépasser, et je pense que c'est très intelligent de laisser aux écuries la possibilité de faire cette CFD, ces simulations pour avoir des réponses à partir du moment où tout le monde travaille ensemble. Ça c'est une autre histoire, c'est de la politique, mais Mais je pense que c'est très positif.
Et puis, juste pour dire, ça paraît très loin, hein, 2021, mais quand même, ça engage des investissements importants, des développements importants. Donc là, il va falloir commencer à y voir clair. Et au plan aéro aussi, je sais qu'on va en parler, parce que là, il y a déjà des modifs qui vont s'appliquer dès 2019.
Bien sûr. Et puis, à chaque changement de réglementation, il y a des gagnants et des perdants. Et ce qui est terrible, ce qui est presque irréversible finalement, c'est qu'on a l'impression que dès la première saison, l'écurie qui a accusé un retard dans la compréhension de ces nouveaux règlements, eh ben, ne peut plus rattraper ce retard jusqu'à un nouveau changement de règlement finalement. On a vu l'avance qu'avait prise Mercedes par exemple en 2014 au moment de l'introduction des moteurs hybrides, jamais Mercedes n'a été rattrapé finalement.
Et il y en a un qui sait ça par cœur et tu vas me voir venir, et tu le sais aussi Adrien aussi, c'est Brown, parce que Ross Brown en 2009 il fait un coup génial avec le fameux double diffuseur à l'arrière. Absolument. Des monoplaces, il prend un avantage déterminant le temps que les autres, les équipes, parce qu'on rappelle qu'il a racheté l'équipe Honda pour une poignée de cerises. Et donc c'est pour le moment le record absolu et je pense qu'il sera jamais battu. Non. Une saison au championnat du monde de Formule 1 sous le nom Brown, un titre terminé, circulé, il n'y a rien à voir. Donc Brown, qui est un malin et qui est un technicien hors pair, il sait mieux que personne évidemment comment ça peut se passer.
C'était Jenson Button qui avait été sacré champion du monde cette année-là. 13h17, vous écoutez Motors en direct sur RMC avec Jean-Luc Roy et Adrien Tambay. On essaye de vous expliquer les changements de réglementation pour la saison 2019 en Formule 1 et surtout leurs implications. Jean-Luc, ça va changer peut-être la phase des courses également. Changement concernant le safety car et la sortie du safety car.
Tout à fait. Alors, on a vu ce qui se passait à chaque fois, hein, et Lewis Hamilton maîtrise parfaitement cet aspect de la course maintenant, puisque presque à chaque Grand Prix, on y a droit. L'entrée du safety car, on régule, on regroupe les monoplaces derrière, effectivement, cette voiture de sécurité. Le temps qu'on dégage la piste, parce qu'en général, c'est quand la piste est obstruée partiellement, on dégage les débris, et puis on lâche les monoplaces. Alors, que fait le leader? On va dire Hamilton dans la majorité des cas, mais les autres font pareil. Eh bien, il se laisse décrocher derrière le safety car. Le safety car, lui, continue à la vitesse à laquelle il peut évoluer. Évidemment, par rapport à une Formule 1, c'est pas très élevé. Il entre dans les stands et le pilote télécommande son départ. Alors, normalement, on n'a pas le droit, c'est la réglementation, de se dépasser avant de passer sur la ligne d'arrivée et de départ du circuit. Mais là, ça va être beaucoup plus clair puisqu'on va laisser les drapeaux jaunes et on va demander au pilote de rester. Alors, il n'y a pas de vitesse imposée pour le moment, semble-t-il, mais on va, disons, les laisser dans cet ordre et rassembler jusqu'à la ligne de départ et d'arrivée.
Donc, il y aura un seul signal qui donnera à peu près tous les mots d'ordre au pilote, en fait. Accélérez et dépassez-vous si vous voulez.
C'est ça, puisque dès qu'on aura passé...
Oui, vas-y. Ouais, vas-y.
J'ai pas tout à fait, moi, compris ou en tout cas interprété la règle de cette façon-là. De mon côté, pour ce qui est de la relance des pilotes et de la décision du poleman à relancer la meute...
Alors, pas forcément du poleman, pardon, Adrien.
Enfin, de l'homme qui est en tête.
De l'homme qui est en tête, pardon. Ouais. De l'homme qui est en tête à ce moment-là de la course. Pour moi, ça ne va rien changer. C'est plus une règle pour éviter les quiproquos et pour justement donner une vision plus claire aux téléspectateurs et aux spectateurs de la course, pour justement bien montrer qu'on a le droit de se dépasser à partir de la ligne de safety car, à partir de cette ligne de départ à la relance. Je pense que la relance est toujours donné au pilote qui est en tête à ce moment-là de la course. Mais bon, à clarifier.
Alors, tu as parfaitement raison. De toute façon, on est d'accord sur tout, bien sûr, puisque on n'avait pas le droit, je l'ai rappelé il y a un instant, de dépasser avant cette ligne. En tout état de cause, ça, c'était interdit. Ça pouvait même valoir des pénalités par la suite. Simplement, comme on prenait beaucoup de vitesse et comme le pilote leader du Grand Prix à ce moment-là pouvait, lui, réguler l'avancement des travaux, c'est le cas de le dire. Il pouvait même, pourquoi pas, accélérer à la moitié du dernier tour pour finir le tour présumé sous safety car à la vitesse quasiment normale. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Et tu as raison, Adrien, ça donne un vrai nouveau départ sur la ligne.
Voilà. Un des exemples célèbres de relance après safety car, c'était il y a pas si longtemps que ça, il y a un petit peu moins de deux ans.
Ouais.
Le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2017, oula, accrochage entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Est-ce que concrètement ça va continuer? Est-ce que c'est de nouveau possible? Ou est-ce que ce nouveau règlement annihile ce genre d'affrontement?
Logiquement moins, puisque là on avait bien vu Lewis Hamilton casser totalement la vitesse, et là, ce que disent les pilotes, il a le break testé, c'était pas vraiment ça, paraît-il. En tout cas, ce que tu expliques est tout à fait exact. Seb Vettel avait pété un câble, c'est le mot. Il s'était porté à la hauteur, et c'est même plus que... C'est pas seulement une percussion par l'arrière, c'est qu'il avait mis un coup de roue à côté, pour lui dire tu me fais pas ça deux fois. Donc effectivement, ce genre d'explication, a priori, puisqu'on doit rester derrière le safety car jusqu'à son entrée dans la voie des cendres, tu as raison, et je sais pas si t'es d'accord, Adrien, mais a priori, on devrait éviter ce genre de phénomène.
Mais est-ce que c'est dommage ou pas?
Je pense, je pense, je pense pas, messieurs. Je pense que c'est juste qu'il y a eu des erreurs dans le passé au niveau des commissaires et au niveau de cette relance avec des commissaires qui agitaient des drapeaux verts, qui en soi, un drapeau vert veut dire qu'on a le droit de se redépasser. Ce qui n'était pas le cas.
C'était pas le
cas,
non.
On avait le droit seulement de se dépasser à partir de cette ligne de safety car. Donc c'est juste pour moi une clarification là-dessus, c'est qu'il y aura toujours des drapeaux jaunes jusqu'au moment où le premier aura croisé cette ligne de safety car. Mais la relance, pour moi, la façon dont j'ai compris le changement de règlement, ça sera toujours au leader de décider quand est-ce qu'il veut reprendre sa vitesse de course. Donc ça sera toujours à lui de ralentir la meute et de partir au moment où il veut, au moment où le safety car a pris assez d'avance pour ne pas le dépasser avant son entrée dans les stands. Pour moi, ça ne change rien. Pour moi, c'est juste une histoire d'organisation et de meilleure gestion entre les commissaires et la direction de course pour plus de clarté, en fait.
Bah, tu vois, je pense que ça donnera lieu à interprétation, mais dans le bon sens, hein, Adri. On est toujours d'accord sur l'essentiel. Moi, je pense pas. Je vais te dire pourquoi. Parce que le drapeau jaune a une signification très claire, et tu le sais bien sûr, en sport automobile, c'est qu'on doit rouler à vitesse réduite parce qu'il peut y avoir un obstacle. Donc, la signification du drapeau jaune en bord de piste est très claire et doit être impérativement respectée. Donc, on ne peut pas reprendre sa vitesse de course tant qu'il y a des drapeaux jaunes sur une piste.
Ça, ce débat, il y a même de fortes chances qu'il soit tranché.
Je pense, s'il est mal interprété par l'homme de tête, on va lui rappeler tout de suite. Hein.
Voilà. Et puis, le Grand Prix d'Australie est quand même plutôt...
On peut rentrer dans le débat, mais le drapeau jaune veut aussi dire qu'on ne doit pas améliorer
sa performance.
Son temps au 7 heures, on ne sait pas de combien on doit ralentir, mais il veut surtout dire qu'on n'a pas le droit de dépasser.
Tu as raison. Et attends, on va être d'accord sur un point aussi, c'est que normalement, on doit maîtriser sa vitesse pour être capable de s'arrêter s'il y a un obstacle sur la piste. Bon, allez.
C'est du bonheur. Ils connaissent tout par cœur. La réponse, faudra attendre quelques mois pour l'avoir.
On le verra.
Sans doute, dès le premier Grand Prix de la saison en Australie à l'aube.
Je pense que les pilotes au briefing poseront des pilotes, évidemment.
Oui, bien sûr, poseront des questions à Charlie Whiting. Autre changement, Jean-Luc, ça on l'a déjà évoqué dans Motors, mais il faut le rappeler comme on est dans ce chapitre-là, il concerne l'aéro pour la saison prochaine.
Ah oui, alors ça c'est extrêmement important, puisque là on y travaille depuis un moment, ça a été acté depuis plusieurs mois. Hein. On va effectivement simplifier l'aéro, le but étant de permettre aux pilotes qui se rapprochent d'un autre adversaire, soit pour le dépasser soi-même, quand ce sont des pilotes, des backmarkers, comme on dit, des pilotes qui sont à un tour, pour permettre à la monoplace qui suit d'être moins perturbée par le flux aérodynamique, donc d'avoir des dépassements avec l'aide du DRS bien sûr, mais plus naturel et plus efficace. Tout le monde l'espérait. On parle d'une valeur de l'ordre de 30% d'après les simulations, donc d'une perte justement d'appui. Alors évidemment, les usines et les ingénieurs travaillent pour récupérer cet appui, on connaît la règle.
Donc on récapitule, un changement dans les pénalités pour permettre aux pilotes de faire primer la performance sportive sur les ennuis mécaniques, des simulations sur la prochaine réglementation qui commence à se peaufiner, la nouvelle réglementation, ça sera en 2021, un changement sur la relance après la voiture de sécurité et un changement aéro. La question, je vous la pose directement, messieurs Jean-Luc Roy, Adrien Tambay, Lewis Hamilton, dans une interview il y a pas longtemps, a expliqué que la F1 avait encore des problèmes fondamentaux à régler, on ne peut pas suivre, donc il y a de trop grands écarts entre nous tous, s'il y en a moins, je continue de le citer, nous aurons le meilleur championnat de sport méca de tous les temps. Est-ce qu'avec ces mesures-là, on va dans le bon sens ?
Alors, je réponds, puis Adrien donnera son opinion. Oui, immanquablement. D'abord, quand on simplifie les choses, qu'on les rend plus claires et avec moins d'interprétation. Oui, quand on rend de la valeur au pilotage, quand on rend de l'importance au pilote qui est moins perturbé, parce que là, avec la meilleure bonne volonté, et je crois qu'Hamilton, dans cette interview, disait également que c'était anormal aussi que les pilotes attardés soient obligés de lever le pied complètement et de perdre énormément de secondes pour ne pas gêner d'une part ceux qui leur prenaient un tour. Et comme ils sont parfois en bagarre eux-mêmes, entre eux, même si se déplacent, évidemment qu'ils sont loin des points, mais on brimait leur performance. Donc, si on peut redonner de la valeur au pilotage, et il évoquait, je crois, le Grand Prix des États-Unis, sa bagarre avec Raikkonen et Verstappen, c'est vrai que c'était absolument génial, et je vais oser le dire, au risque de passer pour tout ce que vous voulez, c'était des bagarres comme on a connu dans le bon vieux temps. Voilà.
Adrien.
Moi, je suis un peu de l'avis de Lewis Hamilton. Je vais prendre un peu le contre-pied par rapport à Jean-Luc, en disant en fait que sur toutes les changements qu'on a évoqués dans ce Motors, il y en a qu'un qui fait un petit pas vers ce qu'on veut voir. Donc c'est ces ailerons avant plus larges qui permettront de suivre un peu plus. Mais c'est un micro pas. Et comme le dit Lewis Hamilton, pour avoir un championnat encore plus relevé, avec encore plus d'incertitudes et de compétitivité, il faudrait qu'il y ait des des modifications un peu plus fondamentales dans le règlement, je pense. Mais tout ça, c'est bien trop politique et bien trop facile à dire de notre position. Voilà, je pense qu'il faudrait des parties communes sur les monoplaces. Bien que ces monoplaces soient développées par des constructeurs qui ont envie d'afficher leurs compétences et leur savoir-faire, mais je pense qu'il faudrait se rapprocher d'une catégorie, pas monotype bien sûr, mais avec des parties communes, par exemple un aileron avant commun, un aileron arrière commun.
Un peu comme en IndyCar.
Ça réduirait forcément les écarts entre les pilotes et les écuries. On ferait la différence sur d'autres choses, mais indéniablement, on serait plus à avoir une écurie une seconde en avance sur une autre à la première course de la saison. Si on avait deux dixièmes, ça serait beaucoup mieux. Voilà.
Voilà, vous savez tout, vous aurez compris ce qui change l'année prochaine en Formule 1, ça sera à l'épreuve des faits maintenant à partir du mois de mars pour la nouvelle saison. 13h27 sur RMC, dans un instant, on évoque Charles Leclerc et Pierre Gasly, deux petits Français, ou presque, qui montent. À tout de suite sur RMC.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
Avec Jean-Luc Roy et Adrien Tombé, on est ensemble jusqu'à 14h en direct sur RMC. Dans un petit quart d'heure, Radio Paddock avec Benoît Boutron et avec notre invité Gérard Neveu, le patron du WEC. Mais d'abord, on continue la F1, place aux Français.
RMC, Motors, le French's Corner.
Deux talents, deux espoirs, deux promotions, Pierre Gasly et Charles Leclerc. On va le mettre dans les Français aujourd'hui, même si on rappelle qu'il est monégasque et qu'il faut le traiter comme un francophone. On fait cette précision-là à chaque fois, mais notre affection pour lui mérite bien de le ranger par le French's Corner. Pierre Gasly et Charles Leclerc, donc après seulement une saison pleine chacun, se battront peut-être pour des podiums dans quelques mois. Le premier chez Red Bull, le second chez Ferrari. La marche est haute. Adrien, avant de s'intéresser en détail à ces deux cas, qu'est-ce que ça change dans la préparation d'une saison ?
Oh, je crois que c'est tous les deux des professionnels et ça fait presque 20 ans, ça fait au moins 15 ans qu'ils font ce métier, ou en tout cas qu'ils sont habitués à se préparer pour des saisons de monoplace. Là, c'est sûr que ça devient un peu différent, surtout pour, j'ai envie de dire surtout pour Charles Leclerc qui rentre dans une écurie fondamentalement sacré dans le sport automobile et en Formule 1, avec peut-être un peu plus de pression que précédemment, même si quelque part il arrive face à un coéquipier 4 fois champion du monde dans la personne de Sébastien Vettel, et que dans tous les cas, s'il était un peu derrière en début de saison, on lui laisserait le temps de s'améliorer. Donc quelque part, il a aussi tout à gagner. Je pense qu'il est en train de tourner les choses comme ça intellectuellement pour s'enlever un peu de pression. En ce qui concerne Pierre Gasly, il est habitué à cette pression, parce que quand on est chez Red Bull depuis tout jeune et qu'on est soutenu par cette marque de boisson, tous les ans on est remis en question, tout simplement sportivement dans la récupération de budget pour sécuriser une saison suivante. Donc la pression, en fait, ils sont tous les deux habitués à l'avoir. Je pense que c'est que du bonheur pour l'instant et qu'ils sont encore dans cette phase de préparation où ils sont en train de savourer ce cadeau presque, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Français ou de francophones avec cette chance, cette opportunité d'enfin se battre avec une voiture capable d'aller au moins faire des podiums et peut-être gagner des courses. Donc je pense qu'ils sont en train de se rendre compte de la chance qu'ils ont et qu'ils sont en train de mettre les bouchées doubles au niveau de la préparation physique et mentale pour la saison 2019.
Alors commençons par Charles Leclerc, 13e du dernier championnat, 10 fois dans les points, dont les 3 dernières courses consécutives. Il est en train, déjà, Jean-Luc, de se faire adopter par les tifosi, et c'est le premier pas à franchir quand on arrive chez Ferrari.
Ben, je crois qu'il suscite énormément d'espoir de par son talent, sa personnalité. Il est déjà très connu en Italie. On sait qu'il y a des liens entre la principauté, là on va le dire, qui est toute voisine, et l'Italie naturellement. Et puis évidemment, dès qu'on pilote une Ferrari, dès qu'on monte à bord d'une machine frappée du Cavallino Rampante, et on le sait. Alors j'évoquais justement très très rapidement le dernier pilote français dans une Ferrari. Il y a eu Jean Alési, qui avait remporté un Grand Prix en 95 au Canada. il y a eu Alain Prost, naturellement, il y a eu Patrick Tambay. Patrick, si tu nous écoutes, un grand salut amical, bien sûr, il y a eu René Arnoux. Donc ça veut dire que là, on est face à un phénomène, effectivement, et je crois que déjà, à travers les déclarations moi, que j'ai lues de Sébastien Vettel, qui commence à dire un tout petit peu, je suis ravi d'accueillir, évidemment, il va pas y mettre de réserve, hein. D'abord, il n'est pas là pour ça, mais on sait qu'il aurait plaidé, lui, pour le fait que Raikkonen reste à ses côtés, puisque tout se passait bien avec lui, il le domine facilement, ce qui sera peut-être pas forcément le cas, j'ose déjà le dire, effectivement, avec Charles Leclerc, parce que Charles a des ambitions, Charles a déjà dit, sans forfanterie, je ne suis plus là pour apprendre, donc il est là pour gagner, et c'est ce qu'on attend de lui. Donc je pense qu'effectivement, la pression, elle est positive, ce qu'a dit Adrien est tout à fait vrai, il a déjà surmonté des drames dans sa vie, il a déjà surmonté des épreuves, il est tout jeune, mais il est armé, et je crois que là, même les tifosi ou la presse italienne ne pourra pas déstabiliser Charles. Alors maintenant, on attend tous, évidemment, un premier bon résultat, et je crois que ça va susciter un élan formidable en France, bien sûr, en Italie, et même partout dans le monde, j'ose le dire.
Et peut-être réveiller aussi un petit peu Sébastien Vettel, le piquer davantage.
Eh ben, tu sais, le problème de Vettel, c'est que sous la pression, il craque souvent. Là aussi, je ne veux pas lui enfoncer la tête sous l'eau, mais il en est convenu. Là, en fin de saison, il a dit, OK, l'équipe a fait des erreurs. D'ailleurs, bon, on l'a protégé aussi, hein. Il a toujours protégé l'équipe l'a protégé. Mais tu sais, l'an prochain, si, effectivement, très rapidement, Leclerc prend la mesure d'un quadruple champion du monde au sein de l'écurie la plus prestigieuse du championnat du monde de Formule 1, ben, je peux te dire que là, ce sera tout pour Charles. Et je pense que Vettel, là, va la vivre très difficilement. Cette saison.
Adrien, c'est une décision d'autant plus symbolique de la part de Ferrari que la Scuderia n'avait pas pour habitude de mettre des pilotes si peu expérimentés dans un de ses baquets.
Oui, je crois que tu fais mention à Jules Bianchi et c'est clair qu'il était temps en fait de prendre un peu de risque au niveau du choix des pilotes et mettre un jeune de la trempe de Charles, c'est... Bah, je pense que c'est un vrai bon choix parce que à double tranchant en fait, ils vont avoir quelqu'un de jeune, d'extrêmement motivé dans l'équipe, avec les dents qui rayent le parquet et qui va aussi travailler de façon positive avec Sébastien Vettel, avec beaucoup de respect, mais en même temps remotiver le pilote allemand et ça va être une belle osmose. Je pense qu'il y a beaucoup de respect chez Sébastien Vettel envers Charles Leclerc. C'est pareil à l'inverse. Et je pense que c'est très positif pour la Scuderia, tout simplement. Ça fait un moment, vous savez, quand Sébastien Vettel était champion du monde, il était avec des coéquipiers qui n'étaient pas forcément de sa trempe, avec à chaque fois la meilleure voiture. Et je pense que ça va être très intéressant. Je pense honnêtement, comme Jean-Luc le disait, ne pas prendre de risque en disant que Charles allait mettre la pression à Sébastien Vettel et vous verrez assez tôt dans la saison.
Ouais. Pour Charles Leclerc, c'est donc une promotion absolument indiscutable, passer de Sauber à Ferrari.
Magique.
Pour Pierre Gasly, peut-être que ça se discute un petit peu, vous me voyez venir les amis. Évidemment, quand on passe de Toro Rosso à Red Bull, qu'on rejoint la maison mère, qu'on passe de l'antichambre à la chambre, c'est une promotion, il n'y a pas de doute. Il n'en demeure pas moins que Red Bull sera équipé la saison prochaine, Adri, d'un moteur Honda. Donc c'est un cadeau, indiscutablement, mais est-ce que c'est un cadeau empoisonné?
Je pense pas là, non. Je pense pas, parce que dans tous les cas... Pierre Gasly, c'était l'objectif d'arriver dans une Red Bull et à côté d'un Max Verstappen qui est très estimé dans le milieu de la Formule 1 et rappelons-le qui a gagné une course à deux courses de la fin du championnat. Donc la voiture cette année était capable d'aller gagner. On voit une Red Bull à chaque fois qui progresse beaucoup au cours de la saison. Il y a une force de frappe au niveau du développement assez impressionnante et on a vu Toro Rosso cette année capable d'aller jouer des bons résultats avec un moteur Honda qui est censé être en deçà des autres. Je pense que chez Red Bull on fait pas les choix au hasard et qu'au niveau même du moteur et du motoriste pour l'année prochaine on a plus ou moins des garanties avec Honda et on sait qu'il y a une marge de progression. Je pense honnêtement que ça va être une belle saison pour Verstappen et Gasly l'année prochaine, ou en tout cas très intéressant à voir, parce que là c'est pas la même histoire qu'avec Sébastien Vettel et, ouais. et Charles Leclerc. Il arrive à côté d'un jeune pilote qui a les dents qui rayent le parquet aussi et je pense que ça va être beaucoup plus à couteau tiré que chez Ferrari.
Pour rappel, Pierre Gasly cette saison dans sa Toro Rosso Honda, hein, déjà c'est 15e au championnat du monde, 5 fois dans les points, mais il faut compter dans ces 5 fois une 4e place à Bahreïn en tout début de saison, qui avait fait beaucoup parler. Pierre Gasly, Jean-Luc, il a reçu presque un avertissement déjà de la part d'un des pontes de Red Bull.
En tout cas, effectivement, c'est comme ça qu'on peut le lire malgré tout, parce que Pierre, il arrive remonté comme une pendule. Pour appuyer ce que disait Adrien, on peut rappeler que les relations, pour le moment, entre Verstappen et Gasly sont excellentes. Ils se connaissent très bien. Et je pense qu'effectivement, Verstappen voit arriver qu'il n'y a pas peur de l'adversité, voit arriver Gasly dans le jeu de quilles sans aucun problème. On sait que, bon, il s'entendait bien avec Ricardo, qui ne s'entendrait pas avec Ricardo. Mais bon, comme par hasard, le pauvre Daniel, eh bien, ses 2 victoires à lui, on le rappelle quand même cette saison, c'était en début d'année. C'est-à-dire avant qu'il annonce, à la surprise générale, qu'il allait quitter. Alors, bien sûr, il a eu des pannes mécaniques, mais bon. Donc, là, il faut penser que du côté de Pierre Gasly, qui arrive très remonté également, on ne veut pas avoir des accrochages au premier tour ou même au deuxième entre les deux hommes. Donc effectivement, du côté du docteur, effectivement,
docteur
Helmut Marko, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il a dit clairement en parlant de Gasly?
Il a dit qu'il allait falloir qu'il se maîtrise. Presque qu'il se calme, c'est-à-dire qu'il est jeune, il est fougueux, il est talentueux, c'est pour ça qu'on lui donne sa chance, mais qu'il allait falloir qu'il maîtrise un petit peu son talent. C'est déjà apparu, on n'a pas encore débuté la saison. Donc ça veut dire très clairement... Oui, vas-y Adrien.
Oui, mais c'est quelque part logique de leur part de dire ça, mais je pense que ça va venir totalement naturellement chez Pierre, parce que forcément, quand on est dans sa première saison complète en Formule 1, dans une écurie comme Toro Rosso, avec une voiture qui peut pas forcément faire des miracles, on est obligé, quelque part, à un moment donné, de franchir cette limite de la surconduite et de l'attaque à outrance. On est obligé de prendre des risques pour se montrer et pour pouvoir faire des résultats comme il a fait à Bahreïn. C'était le cas pour Jules à l'époque chez Marussia. Et on est obligé de prendre des risques. Et en fait, je pense que c'est pour ça que par moment dans la saison, avec la Toro Rosso, il a pu déborder un peu, être borderline au niveau des risques pris. Je pense qu'à partir du moment où la voiture sera meilleure, tout sera beaucoup plus serein chez Pierre.
Oui, puis on peut surtout pas lui reprocher, hein. Il n'est pas question de le brider ou de le brimer. Simplement, il est question effectivement que la bonne entente générale perdure, on va dire, entre les deux hommes. Et puis on rappelle un élément très important, et on l'a dit tout à l'heure de manière induite, c'est que il pilote déjà pour Honda, lui, oui. Donc il connaît très bien les Japonais. On rappelle qu'il a fait une saison là-bas
en Super Formula. Il a failli gagner le titre d'ailleurs.
Exactement, puisque la dernière épreuve a été annulée, mais oui. Il était en mesure de remporter ce titre. Donc il a un bon passé avec Honda, des habitudes de travail. Fortifié encore toute cette saison en Formule 1, et c'est pour ça aussi qu'on l'a pris, pour son talent, mais pour ses excès, et puis son passé qui va aider naturellement à l'adaptation et à la fusion entre Honda et Red Bull.
Un dernier mot sur Pierre Gasly, messieurs, parce que on parlait de Charles Leclerc il y a un instant. Ils sont dans une situation qui peut se ressembler par certains aspects, on l'a dit, ils sont tous les deux promus, mais qui est également très différente. Charles Leclerc, il va arriver avec pour coéquipier Sébastien Vettel. Évidemment, il y a de la différence, c'est un quadruple champion du monde, la question ne se pose même pas. Vettel est de fait supérieur à Charles Leclerc. Maintenant, pour Pierre Gasly, il arrive dans une écurie, certes, avec Max Verstappen, vainqueur de Grand Prix, mais il n'y a pas d'obséquiosité particulière à avoir par rapport à Verstappen. Il aura forcément envie de se battre davantage à armes égales. C'est compliqué à gérer pour Gasly, potentiellement pour Red Bull aussi.
C'est clair. De toute façon, la gestion des pilotes, c'est toujours un aspect très important, évidemment, dans le résultat final. La pire des choses étant l'accrochage. Et on se rappelle que Mark Webber, à l'époque, justement, l'Australien et Sébastien Vettel, ça ne s'est pas toujours très très bien passé, notamment en Turquie, on s'en souvient à un moment. Donc on veut éviter évidemment ce genre de choses. Il faudrait pas que les deux pilotes se tirent dans les pattes et par là même l'écurie. Donc c'est pour ça que moi j'interprète quand même les propos d'Helmut Marko comme le fait de dire à Pierre, tu as le temps, on est avec toi, tu intègres l'équipe de pointe maintenant. Mais il y a quand même 5 victoires d'un côté pour Verstappen, qui est clairement, même si les deux hommes ont le même âge, hein, c'est ça,
oui.
Paradoxe, ils se connaissent très bien. Il y a plus d'expérience et on va dire pour le moment, même si Pierre est en mesure évidemment de remporter une course, on va pas l'en empêcher, hein. Ricardo, encore une fois, on a bien remporté 2 cette saison. Donc il le fera, mais pas au détriment, on va dire, de Verstappen. En tout cas, c'est mon sentiment.
Adrien, un dernier mot là-dessus?
D'un point de vue du grand public, on disait la pression que pouvait avoir un Charles Leclerc, c'est Ferrari, et c'est vrai, il y en aura. Mais je dirais qu'au final, c'est Pierre qui en aura peut-être un peu plus, parce que comme tu l'as dit, Max Verstappen n'est peut-être pas autant estimé à tort ou à raison que Sébastien Vettel, et il y a peut-être un peu plus à perdre pour Pierre que pour Charles, parce que si Pierre est un peu en deçà de Max Verstappen au début de la saison, il aura plus de pression indéniablement que Charles, parce que Charles peut se permettre d'être un peu en deçà d'un quadruple champion du monde qui est la star C'est pareil. Donc tu avais raison de faire cette comparaison.
Merci Adrien d'avoir été avec nous.
Salut,
à très vite. Bonne route. Motors continue dans un instant avec Jean-Luc, avec Benoît Boutron pour Radio Paddock, avec notre invité, un homme qui compte dans le sport automobile, un homme qui pèse, Gérard Neveu, le directeur général du championnat du monde d'endurance. À tout de suite sur RMC.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h46 sur RMC Motors, en direct jusqu'à 14h. Vous retrouvez ensuite Christophe Cessieux pour l'intégral sport, en direct de Val d'Isère et des RMC Sport Games. Tout de suite, Radio Paddock.
RMC Motors.
World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Louis, salut le King.
Salut Benoît.
Dans un instant, notre invité Gérard Neveu, le patron du WEC, le championnat du monde d'endurance. Justement Benoît, c'est par là qu'on commence Radio Paddock.
Exactement, on va parler de ce championnat du monde d'endurance puisqu'il y a de l'actualité. Un nouveau règlement a été établi, de nouvelles règles. Bon, il faudra attendre un peu, ce sera la période 2020-2025, mais ça a été annoncé cette semaine à Saint-Pétersbourg. On va juste rappeler que le championnat du monde d'endurance, évidemment, c'est un championnat un peu particulier, un petit peu complexe à vous expliquer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a au moins 8 épreuves dans l'année et pour la première fois cette saison, le championnat se déroule sur 2 années. Donc c'est une saison sur 2 années, comme un petit peu en football, 2018-2019.
Pour avoir la finale au Mans, hein, 24 heures du Mans, 2019.
La finale au Mans, et d'ailleurs, il y aura 2 épreuves au Mans, puisque la saison a démarré à Spa, il y aura 2 fois Spa et 2 fois Le Mans, donc sur cette saison 2018-2019. Pour l'instant, on a disputé 5 épreuves, il en reste 3, Sebring aux USA en mars 2019, il y aura également Spa, donc en mois de mai, et donc Le Mans au mois de juin. Ce qu'il faut retenir en gros du nouveau règlement pour la période donc 2020-2025, en fait il y a 3 axes fondateurs. Relancer la concurrence, puisque c'est vrai que là on a de grosses dominations et forcément ça tue un petit peu le suspense. Développer l'hybride pour faire attention à l'environnement, évidemment c'est d'actualité en plus, donc on va s'appuyer là-dessus, et puis surtout limiter les budgets, parce que c'est le gros problème du championnat du monde d'endurance. Ça coûte très cher, Jean-Luc. On pourra rentrer dans le détail avec notre invité qui va arriver.
On y va tout de suite, on l'accueille, le patron du WEC, Gérard Neveu. Bonjour Gérard.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, Jean-Luc.
Oui, salut Gérard, et merci de t'être rendu disponible. Alors, on va revenir si tu veux bien, puisque tu m'en as fait la confidence sur la soirée d'hier chez Porsche, je crois, ça s'est bien passé.
Oui, c'était très sympa. C'est une nuit qui a lieu, la nuit des champions, qui a lieu chez Porsche tous les ans pour célébrer tous les champions de toutes les différentes catégories et de tous les différents championnats dans lesquels Porsche est inscrit. Et c'est une belle célébration du motorsport. Porsche a encore de très belles heures devant lui, sont engagés sur beaucoup beaucoup de championnats et c'est un partenaire très actif, notamment dans la catégorie GTE en endurance.
Et voilà, c'est ce que j'allais te dire, puisque la nouvelle est tombée également il y a moins de 48 heures, ils vont engager 4 voitures aux 24 heures du Mans en catégorie GTE dont tu parlais.
C'est leur souhait en tout cas, parce que le comité de sélection des 24 heures se réunira, comme vous le savez, en janvier, mais c'est exact, dans l'intention d'inscrire 4 voitures. Le programme GTE est un programme phare, c'est un peu le flagship pour Porsche, et donc c'est très important pour eux, ils veulent se donner les moyens de pouvoir à nouveau gagner des 24 heures par catégorie.
Alors Gérard, on va évoquer avec toi ce nouveau règlement dont Benoît a parlé il y a un instant. Le maître mot, effectivement, comme il l'évoquait aussi là après, malheureusement, on sait pourquoi les départs d'Audi et puis de Porsche, il reste Toyota avec des machines extrêmement complexes, extrêmement rapides, mais très chères à entretenir. Donc la vision pour 2020-2021, puisque on aura donc un championnat également sur deux parties qui s'étendra donc jusqu'à 2025, c'est de revenir en quelque sorte plus proche de la série, plus proche des GT, parce que je crois que ce sera des trains qui seront issus de la série. Et puis, moi, ce qui m'a frappé, c'est cette homologation de 25 voitures équipées de ce type de moteur, 25 voitures avec le système hybride, et le petit clin d'œil, et tu le sais comme moi, c'est de revenir effectivement à cette catégorie sport prototype fabuleuse. C'était le cas de la Porsche 917, précisément pour Porsche, précisément à la fin des années 60.
Exactement. Bon, le constat, on l'a tous fait, on le connaît. On a eu cette crise un peu difficile avec le groupe Volkswagen. Et puis le fait qu'effectivement, l'endurance, c'est pas des courses d'une heure et demie, c'est des courses qui sont longues. Donc ça fait beaucoup de kilométrage et le roulage de ces voitures est très cher. D'autre part, leur complexité technologique aujourd'hui, on avait fait des machines très compliquées et les coûts de développement étaient très importants. Donc l'idée avec ce nouveau règlement technique, c'est d'abord d'attirer à nouveau le plus grand nombre de constructeurs possible, d'être toujours en lien avec ce qui fait les valeurs de l'endurance et notamment des 24 heures du Mans qui est l'épreuve reine de ce championnat du monde. Et comme ce règlement est composé par la FIA et par la CO, on a essayé de s'inspirer beaucoup de ce qui faisait l'ADN des 24 heures
toujours une place pour la technologie, un budget plus raisonnable, une bagarre avec des constructeurs, mais aussi une possibilité pour les privés d'accéder à cette catégorie RN et de pouvoir rivaliser.
Alors,
dire aussi très clairement qu'il n'y a pas que les voitures dites de série avec 25 voitures minimum. On pourra, avec un châssis, aujourd'hui prototype, participer à cette catégorie, puisque c'est la grande différenciation se fera par l'approche, par l'identification aérodynamique des voitures.
D'accord. Alors, Gérard, d'un autre côté, on dit que le développement moteur, hein, j'ai bien lu le règlement, est libre. En revanche, pas la partie hybride. Hein. Tout ce qui est hybridation, ça doit rester quelque chose proche de la série, utilisé en série. C'est bien ça, pour atteindre une puissance qui a été bien fixée à 680 chevaux.
Oui, absolument. Alors, la puissance des moteurs, l'hybride, effectivement, c'est un système qui peut être partagé. Donc, clairement, chaque constructeur peut développer son système hybride parce que certains y tiennent, et c'est normal, puisque c'est une façon pour eux de démontrer leur capacité à répondre aux nouvelles technologies. Ils le font déjà, c'est le cas de Toyota aujourd'hui, et ça a été le cas il n'y a pas très longtemps encore de Porsche et d'Audi. Mais ce système sera capé, et dès l'instant où un constructeur implantera ce système, il devra le rendre également disponible pour n'importe quel autre compétiteur de la série à un prix capé, donc ce qui fait que les développements de fait sont très limités.
Bien sûr.
La puissance sera la même pour tout le monde, bien entendu, et ce sera uniquement sur l'axe avant de la voiture, sur les roues avant. Donc le système est clairement identifié, il est relativement simplifié. Ça ne sert à rien aujourd'hui de mettre 3-4 systèmes sur ces voitures. Un suffira. Et ensuite, pour ce qui est du moteur lui plus classique, qui viendra en complément du moteur électrique, eh bien, le deuxième moteur, lui, effectivement, on a redescendu un tout petit peu la puissance de manière à ce que un certain nombre de constructeurs puissent y accéder sans avoir à développer un moteur spécifique, ce qui, là encore, engendre des coûts majeurs pour finalement pas grand-chose. Et on parle d'une différence de 3-4 secondes par rapport à la performance obtenue aujourd'hui par une LMP hybride au rang.
D'accord. Alors, il y a encore des contraintes de répartition de poids qui sont assez rigoureuses. Ouais. Le poids total, on l'a monté à 1040 kilos, hein, c'est ça?
Oui. Exactement.
D'accord.
Un peu plus d'une tonne. Oui.
Un peu plus d'une tonne. Alors, je crois qu'un des éléments d'évaluation, et comme tu l'as dit, vous travaillez évidemment en totale corrélation avec la CO là-dessus, c'est la performance au tour au Mans. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce qu'on vise quand même un objectif qui va ralentir un peu les voitures, mais finalement pas beaucoup, hein.
Oui, l'idée, c'est juste, ce règlement, c'est le fruit d'un travail qui a été mis en place avec un certain nombre de constructeurs, ceux en tout cas qui ont manifesté de l'intérêt pour ce nouveau règlement et pour l'endurance. Et on s'est vite rendu compte que si on réduisait un tout petit peu le niveau de performance actuel, on pourrait à nouveau rentrer dans un spectre beaucoup plus large en termes d'accessibilité pour les constructeurs. Et donc, on a réduit un tout petit peu cette performance puisqu'on descend la fenêtre aujourd'hui, la cible, c'est en gros 3,22 en qualif,
ouais,
des 24 heures du Mans, et 3,27 en course, qui est permanente, 4 secondes de moins pour aujourd'hui. 4 secondes sur 3 minutes et quelques, ça ne change pas grand-chose. Le spectacle, lui, en revanche, s'en verra un peu renforcé puisqu'on va parler de fenêtre de performance. Et par définition, donc, la proximité de performance entre les voitures, de quelque part qu'elle soit, devrait être très proche. Donc, on devrait avoir un gros niveau de compétitivité sur la piste.
Alors, dernière question, Gérard, on en reparlera, on aura le temps, avant effectivement la reprise à Sebring, un endroit mythique évidemment qu'on adore tous, avant Spa et Le Mans, c'est la question de limitation de cap cost, puisqu'on va limiter le nombre également de membres de l'équipe à 40. Quel est l'objectif justement en termes de budget, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le budget Toyota, c'est quasiment un budget de Formule 1, pour être clair.
On est loin aujourd'hui, c'était le cas quand il y avait une rivalité avec Porsche et Audi, mais aujourd'hui ils n'ont plus besoin de développer beaucoup parce qu'ils sont les seuls à courir en catégorie hybride. Ils affrontent d'autres LMP1 qui sont non hybrides, mais leur niveau de compétitivité aujourd'hui ne pousse pas à faire beaucoup de développement. Non, il y a toute une série de mesures qui ont été déjà paramétrées dans ce nouveau règlement. Tu as cité celle de la limitation du personnel. Elle est accompagnée par beaucoup d'autres, le nombre de tests très limité, le fait qu'il y a un seul manufacturier pneumatique pour éviter les coûts de développement importants. L'idée aussi que ce règlement est valable pour 5 ans, qu'il n'y a pas de différents kits aéro, il y en aura un pour le moins pour la reste du championnat, et pas de développement possible en aéro en cours de saison. Donc il y a beaucoup de paramètres qui vont aider à essayer de limiter ces coûts. Aujourd'hui, tout simplement, dans les consultations qu'on a pu avoir durant ces derniers mois, elles ont été multiples. On sait qu'un budget qui se situe entre 20 et 30 millions pour deux voitures pour l'ensemble de la saison et incluant les 24 heures du Mans, bien sûr, c'est un budget qui est recevable pour les top constructeurs. Au-delà, on repart dans une dérive qui peut entraîner beaucoup de dépenses. On parle là du budget qui est uniquement dédié évidemment à la partie compétition. Mmh.
Bien sûr.
Le marketing, etc.
Merci Gérard, merci d'avoir été avec nous.
Et puis il y a le nom, il faudra que tu nous révèles le nom. Hein. On parle d'hypercar.
Alors, on va faire participer un peu nos fans dans le projet de Cyril. Mais voilà, on sait
que vous reviendrez.
Hypercar et on sait que votre souhait c'est d'avoir très rapide.
Bon, vous reviendrez dans Motors pour nous annoncer ce nom. Merci Gérard Neveu d'avoir été avec nous. À très vite sur RMC. Benoît, une dernière info dans Radio Paddock, elle concerne un petit Français.
Et on aura un duel Alesi Schumacher en Formule 2. C'est pas fantastique,
magnifique,
ça? Et oui, puisque Giuliano Alesi, le fils de Jean, sera bien sur les grilles de départ de Formule 2 en 2019. Il sera dans l'écurie Trident, donc le Français de 19 ans. On rappelle que c'est l'antichambre de la F1.
Bien sûr.
Pourquoi pas un super duel Schumacher Alesi.
C'est de là que viennent Russell, Norris, etc.
Exactement.
Donc
voilà. Peut-être la porte s'ouvrira-t-elle. Merci Jean-Luc d'avoir été avec nous.
C'est toujours un plaisir.
À dimanche prochain, 13h dans Motors.